Honoré de Balzac, Illusions perdues. 31. En sortant, Lucien vit défiler devant lui la puante escouade des claqueurs et des vendeurs de billets. Tous gens à casquettes, à pantalons mûrs, à redingotes râpées, à figures patibulaires, bleuâtres, verdâtres, boueuses, rabougries, à barbe longue, aux yeux féroces et patelins, tout à la fois. Horrible population qui vit et foisonne sur les boulevards de Paris, qui, le matin, vend des chaînes de sûreté, des bijoux en or pour 25 sous, et qui claque sous les lustres le soir, qui se plie enfin à toutes les fangeuses nécessités de Paris. « Voilà les Romains !» dit Lousteau en riant. « Voilà la gloire des actrices et des auteurs dramatiques. Vu de près, ça n'est pas plus beau que la nôtre. » « Il est difficile, répondit Lucien en revenant chez lui, d'avoir des illusions sur quelque chose à Paris. Il y a des impôts sur tout, on y vend tout, on y fabrique tout, même le succès. » Les convives de Lucien étaient Doria, le directeur du Panorama, Matifa et Florine, Camusot, Lousteau, Finot, Nathan, Hector Merlin et Madame du Val-Noble, Félicien Vernoux, Blondet, Vignon, Philippe Brideau, Mariette, Giroudeau, Cardo et Florentine, Bixiou. Il avait invité ses amis du Cénacle. Tullia, la danseuse, qui, disait-on, était peu cruelle pour Dubruel, fut aussi de la partie, mais sans son duc, ainsi que les propriétaires des journaux où travaillait Nathan, Merlin, Vignon et Vernoux. Les convives formaient une assemblée de 30 personnes. La salle à manger de Coralie ne pouvait en contenir davantage. Vers 8 heures, au feu des lustres allumés, les meubles, les tentures, les fleurs de ce logis prirent cet air de fête qui prête au luxe parisien l'apparence d'un rêve. Lucien éprouva le plus indéfinissable mouvement de bonheur, de vanité satisfaite et d'espérance, en se voyant le maître de ces lieux. Il ne s'expliquait plus ni comment, ni par qui ce coup de baguette avait été frappé. Florine et Coralie, mises avec la folle recherche et la magnificence artiste des actrices, souriaient au poète de province comme deux anges chargés de lui ouvrir les portes du palais des songes. Lucien songeait presque. En quelques mois, sa vie avait si brusquement changé d'aspect, il était si promptement passé de l'extrême misère à l'extrême opulence, que par moments, il lui prenait des inquiétudes, comme aux gens qui, tout en rêvant, se savent endormis. Son œil exprimait néanmoins, à la vue de cette belle réalité, une confiance à laquelle des envieux eussent donné le nom de fatuité. Lui-même, il avait changé. Heureux tous les jours, ses couleurs avaient pâli, son regard était trempé des moites expressions de la langueur. Enfin, selon le mot de Madame d'Espard, il avait l'air aimé. Sa beauté y gagnait. La conscience de son pouvoir et de sa force perçait dans sa physionomie, éclairée par l'amour et par l'expérience. Il contemplait enfin le monde littéraire et la société face à face, en croyant pouvoir s'y promener en dominateur. À ce poète, qui ne devait réfléchir que sous le poids du malheur, le présent parut être sans souci. Le succès enflait les voiles de son esquif. Il avait à ses ordres les instruments nécessaires à ses projets. Une maison montée, une maîtresse que tout Paris lui enviait, un équipage, enfin des sommes incalculables dans son écritoire. Son âme, son cœur et son esprit s'étaient également métamorphosés. Il ne songeait plus à discuter les moyens, en présence de si beaux résultats. Ce train de maison semblera si justement suspect aux économistes qui ont pratiqué la vie parisienne, qu'il n'est pas inutile de montrer la base, quelque frêle qu'elle fût, sur laquelle reposait le bonheur matériel de l'actrice et de son poète. Sans se compromettre, Camusot avait engagé les fournisseurs de Coralie à lui faire crédit pendant au moins 3 mois. Les chevaux, les gens, tout devait donc aller comme par enchantement pour ces 2 enfants empressés de jouir et qui jouissaient de tout avec délice. Coralie vint prendre Lucien par la main et l'initia par avance au coup de théâtre de la salle à manger, parée de son couvert splendide, de ses candélabres chargés de 40 bougies, aux recherches royales du dessert et au menu l'œuvre de chevet. Lucien baisa Coralie au front en la pressant sur son cœur. « J'arriverai, mon enfant, lui dit-il. Et je te récompenserai de tant d'amour et de tant de dévouement. » « Bah ! » dit-elle, « es-tu content ? » « Oh, je serai bien difficile. » « Eh bien, ce sourire paie tout !» répondit-elle, en apportant par un mouvement de serpent ses lèvres aux lèvres de Lucien. Ils trouvèrent Florine, Lousteau, Matifat et Camusot en train d'arranger les tables de jeu. Les amis de Lucien arrivaient. Tous ces gens s'intitulaient déjà « les amis de Lucien ». On joua de 9 heures à minuit. Heureusement pour lui, Lucien ne savait aucun jeu. Mais Lousteau perdit 1000 francs et les emprunta à Lucien, qui ne crut pas pouvoir se dispenser de les prêter, car son ami les lui demanda. À 10 heures environ, Michel, Fulgence et Joseph se présentèrent. Lucien, qui alla causer avec eux, dans un coin, trouva leur visage assez froid et sérieux, pour ne pas dire contraint. D'Arthez n'avait pu venir, il achevait son livre. Léon Giraud était occupé par la publication du premier numéro de sa revue. Le Cénacle avait envoyé ses 3 artistes qui devaient se trouver moins dépaysés que les autres au milieu d'une orgie. « Eh bien, mes enfants, dit Lucien en affichant un petit ton de supériorité, vous verrez que le petit farceur peut devenir un grand politique. « Je ne demande pas mieux que de m'être trompé, dit Michel. « Tu vis avec Coralie en attendant mieux ? Lui demanda Fulgence. « Oui, reprit Lucien, d'un air qu'il voulait rendre naïf. Coralie avait un pauvre vieux négociant qui l'adorait. Elle l'a mis à la porte. « Je suis plus heureux que ton frère Philippe, qui ne sait comment gouverner Mariette, ajouta-t-il en regardant Joseph Bridau. « Enfin, dit Fulgence, tu es maintenant un homme comme un autre. Tu feras ton chemin. Un homme qui, pour vous, restera le même en quelque situation qu'il se trouve, répondit Lucien. Michel et Fulgence se regardèrent en échangeant un sourire moqueur que vit Lucien et qui lui fit comprendre le ridicule de sa phrase. « Coralie est bien admirablement belle, s'écria Joseph Bridau. « Quel magnifique portrait à faire !»« Et bonne !» répondit Lucien. « Foi d'homme, elle est angélique. Mais tu feras son portrait. Prends-la, si tu veux, pour modèle de ta vénitienne, amenée au vieillard. »« Toutes les femmes qui aiment sont angéliques, » dit Michel Chrétien. En ce moment, Raoul Nathan se précipita sur Lucien avec une furie d'amitié, lui prit les mains et les lui serra. « Mon bon ami, non seulement vous êtes un grand homme, mais encore vous avez du cœur, ce qui est aujourd'hui plus rare que le génie, dit-il. Vous êtes dévoué à vos amis. Enfin, je suis à vous, à la vie, à la mort, et je n'oublierai jamais ce que vous avez fait cette semaine pour moi. » Lucien, au comble de la joie, en se voyant pateliné par un homme dont s'occupait la renommée, regarda ses trois amis du Cénacle avec une sorte de supériorité. Cette entrée de Nathan était due à la communication que Merlin lui avait faite de l'épreuve de l'article en faveur de son livre, et qui paraissait dans le journal du lendemain. « Je n'ai consenti à écrire l'attaque, répondit Lucien à l'oreille de Nathan, qu'à la condition d'y répondre moi-même. Je suis des vôtres. » Il revint à ses trois amis du Cénacle, enchanté d'une circonstance qui justifiait la phrase de laquelle avait ri Fulgence. « Vienne le livre de d'Arthez, et je suis en position de lui être utile. Cette chance seule m'engagerait à rester dans les journaux. Y es-tu libre ? » dit Michel. « Autant qu'on peut l'être quand on est indispensable, » répondit Lucien avec une fausse modestie. Vers minuit, les convives furent attablés et l'orgie commença. Les discours furent plus libres chez Lucien que chez Matifa, car personne ne soupçonna la divergence de sentiments qui existait entre les trois députés du Cénacle et les représentants des journaux. Ces jeunes esprits, si dépravés par l'habitude du pour et du contre, en vinrent aux prises et se renvoyèrent les plus terribles axiomes de la jurisprudence qu'enfantait alors le journalisme. Claude Vignon, qui voulait conserver à la critique un caractère auguste, s'éleva contre la tendance des petits journaux vers la personnalité, disant que plus tard, les écrivains arriveraient à se déconsidérer eux-mêmes. Lousteau, Merlin et Finot prirent alors ouvertement la défense de ce système, appelé dans l'argot du journalisme la blague, en soutenant que ce serait comme un poinçon à l'aide duquel on marquerait le talent. Tous ceux qui résisteront à cette épreuve seront des hommes réellement forts, dit Lousteau. D'ailleurs, s'écria Merlin, pendant les ovations des grands hommes, il faut autour d'eux, comme autour des triomphateurs romains, un concert d'injures. Eh, dit Lucien, tous ceux de qui l'on se moquera croiront à leur triomphe. Ne dirait-on pas que cela te regarde? S'écria Finot. Et nos sonnets, dit Michel Chrétien, ne nous vaudrait-il pas le triomphe de Pétrarque? L'or, l'or, y est déjà pour quelque chose, dit Doria, dont le calembour excita des acclamations générales. Faciamus experimentum in anima vili, répondit Lucien en souriant. Eh, malheur à ceux que le journal ne discutera pas, et auxquels il jettera des couronnes à leur début. Ceux-là seront relégués comme des saints dans leur niche, et personne n'y fera plus la moindre attention, dit Vernou. On leur dira, comme chansonnait au marquis de Genlis, qui regardait trop amoureusement sa femme. Passez, bonhomme, on vous a déjà donné, dit Blondet. En France, le succès tue, dit Finot. Nous y sommes trop jaloux les uns des autres pour ne pas vouloir oublier et faire oublier les triomphes d'autrui. C'est en effet la contradiction qui donne la vie en littérature, dit Claude Vignon. Comme dans la nature, où elle résulte de deux principes qui se combattent, s'écria Fulgence. Le triomphe de l'un sur l'autre est la mort. Comme en politique, ajouta Michel Chrétien. Nous venons de le prouver, dit Lousteau. Doria vendra cette semaine 2000 exemplaires du livre de Nathan. Pourquoi ? Le livre attaqué sera bien défendu. Comment un article semblable, dit Merlin en prenant l'épreuve de son journal du lendemain, n'enlèverait-il pas une édition ? Lisez-moi l'article, dit Doria. Je suis libraire partout, même en soupant. Merlin lut le triomphant article de Lucien, qui fut applaudi par toute l'assemblée. Cet article aurait-il pu se faire sans le premier ? Demanda Lousteau. Doria tira de sa poche l'épreuve du troisième article et le lut. Finot suivit avec attention la lecture de cet article destiné au second numéro de sa revue, et en sa qualité de rédacteur en chef, il exagéra son enthousiasme. « Ah, messieurs, dit-il, si Bossuet vivait dans notre siècle, il n'eût pas écrit autrement. »
« Je le crois bien, dit Merlin. Bossuet, aujourd'hui, serait journaliste. »
« À Bossuet II, dit Claude Vignon en élevant son verre et saluant ironiquement Lucien.
« À mon Christophe Colomb, répondit Lucien en portant un toast à Doria.
« Bravo, cria Nathan.
« Est-ce un surnom ?
Demanda méchamment Merlin en regardant à la fois Finot et Lucien.
« Si vous continuez ainsi, dit Doria, nous ne pourrons pas vous suivre. Et ces messieurs, ajouta-t-il en montrant Matifat et Camusot, ne vous comprendront plus.
La plaisanterie est comme le coton qui, filet trop fin, casse, a dit Bonaparte.
« Messieurs, dit Lousteau, nous sommes témoins d'un fait grave, inconcevable, inouï, vraiment surprenant. N'admirez-vous pas la rapidité avec laquelle notre ami s'est changé de provincial en journaliste ?
Il était né journaliste, dit Doria.
Mais enfant, dit alors Finot en se levant et tenant une bouteille de vin de champagne à la main, nous avons protégé tous et tous encouragé les débuts de notre amphitryon dans la carrière où il a surpassé nos espérances. En 2 mois, il a fait ses preuves par les beaux articles que nous connaissons. Je propose de le baptiser journaliste authentiquement.
Une couronne de roses, afin de constater sa double victoire,
cria Bixiou en regardant Coralie. Coralie fit un signe à Bérénice, qui alla chercher de vieilles fleurs artificielles dans les cartons de l'actrice. Une couronne de roses fut bientôt tressée dès que la grosse femme de chambre eut apporté des fleurs, avec lesquelles se parèrent grotesquement ceux qui se trouvaient les plus ivres. Finot, le grand prêtre, versa quelques gouttes de vin de champagne sur la belle tête blonde de Lucien en prononçant avec une délicieuse gravité ces paroles sacramentales.
« Au nom du timbre, du cautionnement et de l'amende, je te baptise journaliste. Que tes articles te soient légers.
Et payés sans déduction des blancs, dit Merlin.
En ce moment, Lucien aperçut les visages attristés de Michel Chrétien, de Joseph Bridau et de Fulgence Ridal, qui prirent leurs chapeaux et sortirent au milieu d'un hourra d'imprécations.
Voilà de singuliers chrétiens, dit Merlin.
Fulgence était un bon garçon, reprit Lousteau, mais ils l'ont perverti de morale.
Qui ? Demanda Claude Vignon.
Des jeunes gens graves qui s'assemblent dans un musico-philosophique et religieux de la rue des Quatre Vents, où l'on s'inquiète du sens général de l'humanité, répondit Blondet.
Oh 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 ! On y cherche à savoir si elle tourne sur elle-même,
dit Blondet en continuant,
ou si elle est en progrès.
Ils étaient très embarrassés entre la ligne droite et la ligne courbe.
Ils trouvaient un non-sens au triangle biblique.
Et il leur est alors apparu je ne sais quel prophète qui s'est prononcé pour la spirale.
Des hommes réunis peuvent inventer des bêtises plus dangereuses, s'écria Lucien, qui voulut défendre le cénacle.
« Tu prends ces théories-là pour des paroles oiseuses ?» dit Félicien Vernou.
« Mais il vient un moment où elles se transforment en coups de fusil ou en guillotine. »«
Ils n'en sont encore, » dit Bixiou, « qu'à chercher la pensée providentielle du vin de champagne. Le sens humanitaire des pantalons et la petite bête qui fait aller le monde.
Ils ramassent des grands hommes tombés comme Vico, Saint-Simon, Fourier. » J'ai bien peur qu'il ne tourne la tête à mon pauvre Joseph Bridau.
Y enseigne-t-on la gymnastique et l'orthopédie des esprits ? Demanda Merlin.
Oh, ça se pourrait, répondit Finot.
Rastignac m'a dit que Bianchon donnait dans ses rêveries.
Leur chef visible, n'est-il pas d'Arthez ? Dit Nathan.
Un petit jeune homme qui doit nous avaler tous.
C'est un homme de génie, s'écria Lucien.
« J'aime mieux un verre de vin de Xérès,
dit Claude Vignon en souriant. En ce moment, chacun expliquait son caractère à son voisin. Quand les gens d'esprit en arrivent à vouloir s'expliquer eux-mêmes, à donner la clé de leur cœur, il est sûr que l'ivresse les a pris en croupe. Une heure après, tous les convives, devenus les meilleurs amis du monde, se traitaient de grands hommes, d'hommes forts, de gens à qui l'avenir appartenait. Lucien, en qualité de maître de maison, avait conservé quelque lucidité dans l'esprit. Il écouta des sophismes qui le frappèrent et achevèrent l'œuvre de sa démoralisation.
« Mes enfants, dit Finot, le parti libéral est obligé de raviver sa polémique, car il n'a rien à dire en ce moment contre le gouvernement. Et vous comprenez dans quel embarras se trouve alors l'opposition. Qui de vous veut écrire une brochure pour demander le rétablissement du droit d'aînesse, afin de faire crier contre les desseins secrets de la cour? La brochure sera bien payée.
Moi, dit Hector Merlin, c'est dans mes opinions.
Ton parti dirait que tu le compromets, répliqua Finot.
Félicien, charge-toi de cette brochure. Doria l'éditera. Nous garderons le secret.
Combien donne-t-on? Dit Vernou.
600 francs. Tu signeras le compte C.
Ça va, dit Vernou.
Vous allez donc élever le canard jusqu'à la politique? Reprit Lousteau.
C'est l'affaire de Chabot, transporté dans la sphère des idées, reprit Finot.
On attribue des intentions au gouvernement et l'on déchaîne contre lui l'opinion publique.
Je serai donc toujours dans le plus profond étonnement de voir un gouvernement abandonnant la direction des idées à des drôles comme nous autres, dit Claude Vignon.
Si le ministère commet la sottise de descendre dans l'arène, reprit Finot, on le mène tambour battant.
S'il se pique, on envenime la question, on désaffectionne les masses.
Le journal ne risque jamais rien, là où le pouvoir a toujours tout à perdre.
La France est annulée jusqu'au jour où le journal sera mis hors la loi, reprit Claude Vignon.
Vous faites d'heure en heure des progrès, dit-il à Finot.
Vous serez les jésuites,
moins la foi, la pensée fixe, la discipline et l'union.
Chacun regagna les tables de jeu. Les lueurs de l'aurore firent bientôt pâlir les bougies.
Tes amis de la rue des Quatre Vents étaient tristes comme des condamnés à mort, dit Coralie à son amant.
Ils étaient les juges, répondit le poète.
Oh, les juges sont plus amusants que ça, dit Coralie.